Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, qui écoute les artistes pendant une heure. Et ce soir, c'est Bertrand Belin qui est avec nous.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Comment on digère une ville angulaire et verticale? Est-ce qu'écrire une chanson est un bon poste d'observation? Est-ce qu'il vaut mieux, en tant qu'oiseau, faire son bec ou son nid pour être sûr d'avoir dit quelque chose une fois le soir venu? Est-ce qu'un synthétiseur peut frissonner ou c'est moi qui invente? Votre nouveau disque sème quantité de questions et c'est toujours ça qui me rend heureuse. Bertrand Belin a commencé par son titre que de prime abord, on peut rapprocher du film de Bergman, 1966, Persona, mais on peut aussi dire que Persona, c'est un personnage sans le jeu final, une silhouette, sans nom, comme celles qui sont sur le cul ou près des lilas ou qui se redressent à la fin des chansons que vous écrivez et composez. J'imagine que vous avez même d'autres fils à tirer de ce titre-là. L'album sort ces jours-ci sur le label 5-7 et il vous mettra sur les routes pour des concerts à venir. Bonsoir à vous, Bertrand Belin. Concert à venir au Havre, c'est le début de la tournée, en fanfare, le 26 février 2019. C'est une ville qu'on aime bien dans cette émission. Et qui vous mènera aussi à l'Olympia, pour la première fois, j'ai appris. Je crois que vous étiez passé plein de fois par l'Olympia, moi.
J'ai joué quelques fois en ouverture d'artistes renommés, mais c'est la première fois que j'aurais mes lettres lumineuses. Voilà, j'aurais le B de Bibi, de Beko, le L de je sais pas qui.
Le E de ?
Le E de, je sais pas moi... qui pourrait être...
Édith Piaf, on me dit, au casque.
Édith Piaf, bien sûr, comment on peut oublier
l'être d'or d'Édith Piaf. Le R.
Voilà. Le R de...
J'avoue que je peux jouer à ça pendant longtemps. Mais
ouais, bon, ouais, je sais pas si j'arriverai. Enfin, en tout cas, j'aurais un alphabet lumineux, quoi. Je serais un alphabet lumineux personnel, vous voyez un peu.
La classe.
La consécration, quoi.
Je sais pas, en tout cas, ça fait plaisir.
Oh oui, ça fait plaisir, oui, bien sûr.
Ça, c'est le 11 avril 2019 et entre-temps, il y aura Rouen, Mouveau, Strasbourg, Nancy, Alonne, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Montpellier, Lyon, Marseille, Clermont-Ferrand, on mettra toutes les dates sur le site internet. Il n'y a pas très longtemps, c'était Serge Tessoguet qui était assis à votre place et je lui ai demandé si c'était un endroit agréable, la route, et il disait que oui, très.
Ah oui, 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 je suis pas surpris de sa part.
Et vous?
La route, le déplacement, ce qui est très agréable, c'est surtout d'être en compagnie, quoi, d'être en équipé, quoi. Ça j'aime beaucoup. Bien sûr, ça fait des années que ça dure, hein, cette histoire de route. Ça fait 20 ans ou 25 ans que je fais des concerts partout. Mais bon, ça, j'ai très envie d'y repartir, là. J'ai très envie de repartir. Non, ça fait pour moi une sorte de pseudo aventure maritime, quoi, ce déplacement, c'est ça, moi, avec mes ancêtres marins, c'est ma petite façon de me sentir appartenir à cette lignée, quoi, c'est d'être en mouvement au moins, quoi.
Lui, c'est qu'il préférait le train. Comme ouais. Ça, il était très très mobile. Vous bougez comment avec votre équipée?
Alors, la plupart du temps, on est dans un véhicule
polluant.
Voilà, 8-9 places, polluant. Oui, oui. Moi, je m'intéressais au confort, mais c'est vraiment le signe des temps, là. Vous m'avez eu en plein mille.
Ça fait longtemps que vous voyagez avec les mêmes, en tout cas certains d'entre eux ou certaines. Il me semble que c'est assez important dans la vision que vous avez de la musique. Souvent, vous dites que la guitare, c'est comme un bon chien qui vous accompagne longtemps. Alors, sans comparer les musiciennes et les musiciens à des bons chiens, mais est-ce que cette camaraderie-là, elle est fondamentale dans la manière dont vous concevez la musique?
C'est difficile de répondre. Pour ce qui concerne le moment où j'écris des chansons et où je suis attiré par le par le fait même de construire une chanson, c'est-à-dire de bâtir un petit monde comme ça. Bon, ça, je le ferais, même si... D'ailleurs, je le faisais avant même d'aller chanter sur scène. Et cette chose, en soi, m'intéresse et me passionne. Et je sais qu'elle procure un certain plaisir qu'on peut pas trouver ailleurs, quoi. Qu'on trouve probablement très proche ailleurs, en fabriquant toute chose. Un meuble, je ne sais quoi. Mais bâtir une chose qui, tout à coup, a l'air de tenir debout selon des modalités très intimes... Ça m'intéresse. Donc, je pense que seul, je pourrais le faire quand même. Mais enfin, la collaboration, c'est, y compris dans l'écriture et l'arrangement, la collaboration, entrer comme ça à plusieurs dans l'élaboration d'une chose, ça, c'est une chose à laquelle je goûte de plus en plus et qui me séduit énormément, quoi. Ce disque résulte aussi de ce partage que j'ai avec les musiciens avec lesquels je joue depuis très longtemps.
Que d'habitude ?
Un peu plus que d'habitude, oui. Thibaut Frisoni et Tatiana Mladenovic en particulier, mais aussi Nicolas Delbar, qui est ingénieur du son, qui enregistre, mixe et s'occupe de la prise de son. Mais oui, bien sûr. C'est pourquoi sur ce disque, il y a quelques titres qu'on a signés à trois, d'ailleurs, hein, parce que quelques musiques, notamment sur deux chansons en particulier. Voilà, c'est une dimension là de d'équipage que je découvre. Il faut être très à l'aise avec ce qu'on est pour ouvrir les portes comme ça. Bon, peut-être que c'est un moment qui vient pour moi.
C'est marrant que vous utilisiez le mot bâtir un petit monde parce que je crois que je me suis dit que c'est la première fois que je lisais le mot architecture dans vos chansons.
Ah, je le prononce ?
Ouais.
Oui, je le prononce, ouais. C'est vrai, ouais. C'est en effet, ouais. Bah, j'ai toujours pensé, ça m'a été révélé par une petite phrase que j'aime énormément, mais que je vais vous citer.
Quel suspense.
Vous avez vu, je sais ménager mes effets, hein. C'est que, oui, l'architecture et la musique ont beaucoup en commun. Beaucoup de disciplines artistiques ont plus en commun qu'il n'y paraît, d'ailleurs. Quand il est question de musique, un chef d'orchestre ou n'importe quel compositeur se figure des verticales, des horizontales, des profondeurs, des transparences, des timbres, des matières, des ascensions, tout ce vocabulaire-là, des piliers, enfin, le rythme dans l'architecture, on n'a qu'à regarder par la fenêtre, on voit les immeubles, ils sont séquencés, tout est séquencé comme un rythme, quoi. Il y a une phrase de Bio Casares et Borges dans les chroniques de Bustos Domecq où il fait dire à un de ses personnages, il attribue d'ailleurs, je crois, à Goethe cette phrase, et il fait dire l'architecture, c'est de la musique congelée. Voilà. On en a peut-être déjà parlé, hein, mais je trouve cette assertion vraiment très intéressante. Elle m'a engagé sur la voie d'une réflexion qui consiste à penser l'architecture décongelée est-elle toujours de la musique ?
Ou est-ce que la musique l'architecture décongelée, c'est marrant.
Hein ? Qu'est-ce qu'elle peut être, l'architecture décongelée ? De la musique ? Peut-être aussi du cinéma, je ne sais pas.
De la ferraille ou du béton. Il y a Xenakis aussi quand même, musique et architecture.
Ouais.
Lui, il avait tout fait d'un coup.
Ah bah ouais, c'est incroyable ça. Moi, j'imagine souvent, imaginons par exemple qu'on congèle un quatuor de Ravel par exemple. Donc on devrait obtenir de l'architecture.
Ouais, mais je connais un artiste.
Selon ce principe. Alors, à quoi ressemblerait congeler un quatuor de Maurice Ravel? Est-ce qu'on aurait envie d'y habiter? Ce serait quoi comme bâtiment? C'est formidable d'imaginer ça.
Il y a une œuvre de Stéphane Tidet, un plasticien, un artiste, qui s'appelle Bruit Blanc. Et c'est un orchestre comme ça, qui est en glace, qui est congelé.
C'est Stéphane Tidet qui a fait ça?
Ouais.
Ah bon?
C'est hyper beau.
Ouais, c'est très intéressant ça. Ouais, là, donc, cette question-là, elle est passionnante, je trouve. Mais voilà, c'est vrai que ces questions des verticales, du vocabulaire, de la réverbération, toutes ces choses qui aussi ont toute leur place dans la peinture. On peut parler de l'horizontalité d'un récit. Voilà, donc, c'est passionnant, quoi. On se sent libre avec ça.
J'ai travaillé à travailler pour un travail. J'ai travaillé à travailler dans un travail. Toute une nuit j'ai travaillé, toute une vie j'ai travaillé dans un travail. Chien, camarade, camarade, chien, chien, camarade, chien, chien. Devant une église, je maudis. Derrière cette église, je supplie. Qu'importe le temple, je maudis. Parfois, je supplie. Immobile, je maudis. En mouvement, je maudis. En marchant, simplement. Je supplie en marchant. Chien, camarade, camarade, chien, chien, camarade, chien, 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 camarade.
Camarade, c'est un extrait de votre dernier disque, Bertrand Belin, et avec tout ça, avec toute cette histoire d'architecture, on n'a pas parlé du titre Persona.
Oui, Persona. C'est-à-dire que... Comment dire, voilà,
C'est pas obligé, hein.
Non, mais très rapidement, non, parce que c'est vrai que la question mérite d'être posée, quoi. Pourquoi donc Persona? Pourquoi donc? J'ai trouvé ce mot en lisant un article de presse un jour. Alors, j'étais dans la période où il est nécessaire de se creuser un peu le cerveau pour trouver un titre à l'album, parce que j'ai déjà sorti un album éponyme, mon premier, donc il fallait que je trouve un titre à celui-ci. Et j'ai trouvé ce mot, Persona, accueilli. J'ai trouvé très beau. Bien sûr, il y a le film de Bergman qui aurait pu me faire reculer, me dire non, je ne vais pas toucher au sacro-saint titre de Bergman.
Au contraire.
Mais en fin de compte, je me suis dit, c'est une façon de l'avoir rendu saillant, ce nom, parmi la somme des mots, quoi. Donc, il est là, maintenant, on le prend. Et puis non, mais il est beau, il y a une transparence et une permanence comme ça du sens dans ce mot étrange. Tout le monde peut se l'approprier, son sens paraît simple, et pourtant il est multiple, mais... Puis il y a cette chose étrange du mot personne utilisé dans la langue française qui désigne une personne absente comme une personne présente. Enfin, il y a deux personnes, il n'y a personne. C'est étrange cette égalité curieuse de l'absence et de la présence, quoi. Je trouvais ça vraiment passionnant comme ça. Puis bon, il a aussi une beauté simplement, je trouve, dans le larynx, dans la bouche quand on prononce. Il a des qualités d'ordre plastique. Si c'était un petit coléoptère parmi les coléoptères, bon, je l'aurais choisi pour sa beauté aussi, quoi.
C'est comme ça que ça fonctionne pour vous? Les mots, c'est des coléoptères parmi les coléoptères, et puis oui. Vous en apprivoisez certains, enfin, ou juste ils vous touchent par leur beauté?
Dans un cas comme celui-ci, on peut se permettre de donner un peu de place à la beauté des choses. Parfois, quand on est à la recherche d'un sens très particulier, bon, on peut faire des entorses, et on est obligé parfois de se plier, parfois, au caractère disgracieux de certaines façons de parler, quoi, hein, parce qu'on veut exprimer quelque chose de très précis. Donc, la beauté, c'est pas toujours au rendez-vous dans la langue, mais enfin, en tout cas, le merveilleux y est toujours, hein, espérons-le.
Et qu'est-ce que vous pensez de mon histoire de persona sans le jeu? L'histoire des silhouettes comme ça? Parce que je me suis dit, tiens, ça renseigne aussi la manière dont Bertrand Belin écrit ses disques et ses chansons, mais aussi ses livres.
Oui, c'est vrai qu'il y a c'est une phase persona aussi, c'est aussi comme l'emblème, de, un peu comme le drapeau d'un peuple de silhouettes, quoi. Mmh. Et c'est vrai que dans mes chansons, les chansons sont peuplées de silhouettes et les livres, aussi un peu si on veut, dans le sens où les personnages ne portent pas de nom propre, où ils sont souvent désignés par leur fonction, ou alors peut-être par leur hauteur, le type d'un mètre 80, voilà, ce sont des personnes qui sont réduites à des informations assez très fragmentaires, quoi, mais qui suffisent à témoigner.
En tout cas, qui suffisent pour ce que vous avez besoin de faire avec eux.
Ah, oui, bien sûr, largement, oui, bien sûr, oui. Oui, dans d'autres cas, peut-être qu'il serait nécessaire d'appeler une silhouette Julien le Guénèque, j'en sais rien.
Et ça, vous enlevez, par exemple, vous commencez tout de suite avec des silhouettes dans vos chansons?
Ah oui.
Ou vous enlevez? Non.
Ah non,
vous retranchez rien, quoi.
Non. Plus maintenant, non. Avant, j'avais besoin de retrancher, mais maintenant, j'ai un accès direct au peu, quoi. Ouais.
Dans la chanson qu'on vient d'entendre, par exemple, à la fois, il y a du peu et il y a de la répétition. Ce sont deux choses qu'on retrouve souvent. Ça veut dire que la chanson arrive comme telle, dans cette forme d'économie, si je peux me permettre.
Ah oui, celle qu'on vient d'entendre en particulier, la chanson au départ ne comportait que j'ai travaillé, que je répétais comme ça 4-5 fois, et puis ça faisait une chanson, quoi, qui me semblait suffisante. Mais en même temps, bon, j'apprends aussi à essayer de maîtriser la forme de la chanson dans ce qu'elle peut avoir de permanent, c'est-à-dire elle est constituée d'un couplet, d'un refrain, il y a des variations. C'est intéressant aussi d'essayer de renouveler ces choses, c'est-à-dire avec ce peu d'éléments, essayer de reconstruire quelque chose de neuf. C'est chimérique, mais c'est quand même aussi une partie du travail qui apporte une certaine satisfaction.
C'est-à-dire se coltiner la forme chanson,
ouais.
Mais pas se dire ben moi j'estime que j'ai travaillé, ça tient.
Ouais.
Non, en fait, il faut peut-être la chanson, mais au sens de la chanson populaire, par exemple.
Oh oui, absolument, au sens de la chanson populaire, parce que il est vrai que il y a aussi cette illusion de pouvoir penser, s'adresser aux autres, quoi. C'est pas forcément tant une illusion d'ailleurs, mais oui, j'ai envie de m'adresser aux autres. Des chansons sans refrain, avec des formes libres, il en existe aussi sur le disque, hein. C'est le cas de En Rang, qui termine l'album, à mon avis, qui inaugure pour moi une période où je vais expérimenter de plus en plus souvent ce genre de choses. C'est un peu hors piste, quoi, si on veut. Bien que je me sente appartenir à une chose pas trop balisée déjà dans ce que je fais, mais enfin quand même. Et donc j'ai travaillé, et puis j'avais ce passage musical, un refrain instrumental où il n'y avait pas de mots dessus. Puis je me suis posé la question de savoir si je pouvais pas dire quelque chose là-dessus. Et puis Chien Camarade est arrivé, et puis ça, je trouvais que ça résumait parfaitement la situation et qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter, et pas besoin de verbes. Pas besoin de complément d'objet, pas besoin même d'informations, la relation entre ces deux mots, quoi.
C'est assez clair, en effet.
Ouais, et bon, bah voilà. Alors que si je trouve des petits agencements comme ça qui sont presque sous cette forme-là dans la nature, bah je les prends et je les dépose dans la chanson et je prétends en être l'auteur, quoi.
La nature vous fait tant de cadeaux, Bertrand Belin,
ouais.
Quelle chance.
Elle me fait pas que des cadeaux, mais bon, elle m'en fait aussi. Hein. J'espère que c'est pas trop immérité, quoi.
Dans l'introduction de l'émission, je disais que ça avait semé plein de questions, et c'est quand même ce que j'aime bien dans vos disques et ce que j'aime bien dans l'art en général. Par exemple, est-ce que la chanson est un bon poste d'observation ?
Je dirais pas que la chanson est un poste d'observation, je dirais au contraire que la chanson est un bon endroit pour observer, pour prendre la température des sociétés, peut-être. La chanson... non, je pense qu'un poste d'observation, j'aurais tendance à penser que peut-être que l'historien a un poste d'observation intéressant, le philosophe.
Pas le chanteur, auteur, compositeur.
Bah, il regarde moins en soi aussi, peut-être. Moi, en écrivant des chansons, je regarde aussi en moi.
Ah bah oui, d'accord. Je croyais que vous disiez l'inverse.
Non, je regarde en moi. Aussi, quoi. Donc, c'est un poste d'observation, finalement, oui, mais dont chacun dispose, hein, chanteur comme autre, comme boulanger, quoi. Mais en revanche, c'est intéressant d'observer, en observant les chansons, de voir se refléter le monde dans lequel ont été écrites et créées.
Et inversement, quoi. C'est intéressant d'observer le monde et éventuellement de le mettre dans des chansons.
Oui, je dirais que c'est pas faisable autrement, quoi. Que fatalement, le monde s'invite dans les chansons qu'on écrit et bien sûr, il s'y trouve, voulant l'observer ou ne voulant pas le faire.
Et vous tenez beaucoup à l'idée que faire des chansons, c'est comme faire du pain ou des chaises, parce que ça fait plusieurs fois que vous le dites.
C'est vrai, ça. C'est une sorte de fraternité que je sens avec les artisans, quoi. Avec les gens qui ont un métier de savoir, une connaissance particulière, une discipline, un art. Oui, de ce point de vue-là, la question de la forme et de bien réussir une chose. J'espère que les boulangers de France veulent réussir leur pain.
Les gens devraient chanter. Ce petit atelier que j'ai fait là sur 8 jours, je me suis rendu compte que ça faisait du bien au corps. Et que si les gens ne chantent pas, c'est parce qu'ils sont timides. Ils n'ouvrent pas la bouche. Comme c'était à la campagne et ça pouvait gêner personne, la première chose que je leur ai fait faire, c'est hurler dans la campagne. Wouah ! J'ai dit, pour chanter, il faut ouvrir la bouche tout grand. Voilà. Forcément, je sais pas, on utilise, je sais pas ce qu'ils appellent les colonnes d'air et tout ça. Alors, oh, comme ça, on respire et tout, hein. D'abord, en principe, on dégage la cage thoracique. Ça me va bien de dire ça, parce que je suis en train de chanter, et j'ai tellement peur que je suis rencogné comme ça, la poitrine coincée et tout. Mais enfin, on devrait chanter, ah, poitrine déployée, comme Madame Jessie Normand dans la Marseillaise. Et bon, bah, j'ai jamais étudié, je déteste ça. Mais, je vais pas jouer les innocentes comme ça, par la pratique, disons, sur 26 ans, hein. Par la pratique, j'ai quand même probablement appris des choses. Et maintenant, je sais donc un peu le solfège jusqu'à la double croche. Mais le travailler la voix, je sais pas, j'ai pas eu envie, rien du tout. Enfin, j'ai la chance d'avoir un timbre intéressant, il paraît. Un timbre intéressant, puis quoi Et oui, et puis je chante juste naturellement, donc pas de travail à faire, voilà. Épatant.
1989 et la voix de Colette Mani au micro de Bruno Sourcy.
Ah, magnifique.
Ça, c'est un petit cadeau aussi qu'on a trouvé dans la nature des archives.
Ah ouais, ça me fait plaisir d'entendre ces mots. J'ai jamais entendu sa voix comme ça parler. Je connais bien sûr ses chansons, je les aime énormément. J'en chante quelques-unes d'ailleurs. Oui, c'est passionnant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle raconte au début de son intervention. Là.
Que quoi, chanter, ça fait du bien.
Ouais, que chanter, ça fait du bien. Que chacun peut chanter et que c'est une voie par laquelle peuvent s'échapper beaucoup de crispations et de tourments. Hein, la voix chantée, hein, c'est vrai que ça produit un appel d'air, ça aide ce qu'on pourrait qualifier comme ça pour être rapide l'âme à se divertir quoi un peu.
Je crois que ça fait plusieurs fois qu'on a des conversations radiophoniques. Je sais pas si je vous ai demandé si vous avez toujours chanté.
Ah ouais, non, je crois pas que vous m'ayez posé la question.
Et de l'enfance, de l'adolescence, est-ce que par exemple ce qu'elle dit elle de chanter dans la campagne, de gueuler dans la campagne, ça ressemble à quelque chose que vous avez fait vous, Bertrand Belin?
Non, lorsque j'étais enfant, adolescent, j'ai pas le souvenir d'avoir fait ça. Non, on était plutôt discret. Je parle pas de moi au pluriel. Hein, je parle de moi avec mes camarades de l'époque. On était plutôt discret. On avait plutôt le souci de pas se faire repérer, quoi. On était un petit peu plutôt des petits voyous, des petits brigands. Donc on était assez silencieux. On n'était pas vociférants. Par contre, je jouais de la guitare, donc j'avais quand même ce recours aux décibels qui existait.
Mais qui est pas pareil que chanter.
Ce n'est pas pareil. Mais ça, le pouvoir du chant, j'ai découvert plus tard. J'ai découvert aussi, je crois, il y a une vingtaine d'années, alors que ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais parti de la maison et que je voyais mes parents très peu souvent. Et un jour, j'ai entendu ma mère chanter. Je l'avais entendu quand j'étais enfant, elle chantait souvent des chansons des yéyés, des chansons de chansons réalistes, etc., d'avant-guerre et tous ces trucs-là. Elle avait une voix très très belle, elle chantait très juste, naturellement, comme dit Colette Mani, une chance. Mais enfin, elle n'a jamais pratiqué la chanson, elle n'a jamais été accompagnée par une guitare. Moi-même, je ne l'ai jamais accompagnée, je n'ai pas eu le temps. Mais enfin, là, en l'entendant chanter, alors que j'étais adulte, que ça faisait 10 ans que j'étais parti, j'ai entendu chanter et son chant, par rapport à la vie tumultueuse qu'elle a eue, ma mère...
Ça avait à voir ou ça n'avait pas à voir? Vous aviez l'impression que il y avait des choses qui continuait dans son chant ou au contraire ça rentrait dans autre chose?
Il y avait quelque chose qui avait continué dans son corps, de son enfance, d'une enfance heureuse, et qui, au bout de nombreuses années, de décennies, vraiment d'une vie très rude qu'elle a eue, ce chant témoignait de la persistance d'une grâce et d'une beauté intérieure. Et il était gêné de s'exprimer ce chant. Et cette gêne était aussi dans le chant, et c'est, je crois, ce qui nous touchait le plus. Quoi.
Ça rejoint ce que disait Colette Mani, qui dit « En même temps, je dis ça, et en même temps, j'ai peur quand je chante, et je me retrouve souvent comme ça, un peu gêné d'avoir même le timbre épatant dont elle parle. »
Ouais.
Vous n'avez plus peur, plus gêne. Finito. Si jamais ça a été le cas.
La gêne, elle n'est pas liée... pas lié à ça, elle est liée aussi à ce qui se transporte comme information, le sens des mots, le sens des textes, peut-être parfois peur d'en dire trop de soi, il peut y avoir une gêne comme ça, quoi. Mais le fait de chanter, non, j'ai toujours eu confiance chez les auditeurs, parce que je sais que peut s'opérer cette On est heureux d'avoir des chanteurs, quoi. Il nous faut des chanteurs et des chanteuses, quoi. Il faut que le chant vive, quoi. Simplement, quoi. Le chant, c'est quelque chose, quoi. Donc, quand on chante, il n'y a pas de raison d'embêter les gens avec ça. Cette gêne, elle ne vient pas des autres. Ça se travaille en soi, j'imagine.
D'ailleurs, quand vous dites ça, je pense au fait que les personnes très très âgées, notamment les personnes qui ont des troubles de la mémoire, des maladies, les maladies d'Alzheimer par exemple, il y a une des choses qu'ils retrouvent parmi tout l'océan de ce qu'ils ont perdu, c'est le chant.
Le chant, les mélodies et la musique.
D'une manière extraordinairement claire.
Oui, claire et qui les submerge d'émotions aussi, parce que ça charrie des mondes, hein. La musique, elle c'est comme une ambre qui emprisonne du temps et des événements, quoi. Et quand on réécoute ces musiques, il y a une libération comme ça. C'est vraiment un très 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 beau véhicule de la nostalgie aussi, dans ce que la nostalgie peut avoir de merveilleux, je veux dire. Comme une pâtisserie de la vie, quoi.
Il y a des trucs que vous pouvez pas chanter parce que ça charrie trop de monde.
Alors il y a des chansons parfois que j'ai eu du mal à chanter ou rechanter, parce que parfois la signification, en tout cas une des significations, celle que j'ai voulu mettre aussi dans cette chanson, n'est parfois accessible que de moi. Il arrive que ça peut être le cas. C'est même le cas peut-être pour de grandes chansons de variété très célèbres. Hein. Il y a une part comme ça qui n'appartient qu'à l'auteur en fin de compte, et cette part elle peut être soumise à des époques et être plus ou moins bien accueillie selon les périodes de la vie. Et des fois, ça peut être plus douloureux que d'autres, quoi, de se remémorer des moments, des choses.
Ou parce que c'est juste plus du tout en accord. Peut-être c'est plus du tout en phase.
Parfois, c'est plus du tout en phase, mais lorsque c'est plus du tout en phase, si ça ne vient pas secouer l'étage des émotions, on peut chanter, quoi. Mais c'est plutôt dans les moments de fragilité où, voilà, il arrive que quelques chansons qui soient plus difficiles à chanter que d'autres, mais ça rendra pas cette interprétation moins émouvante, quoi.
Au contraire.
Au contraire, j'aurais tendance à penser aussi, oui.
La poésie est une chose et la chose la plus importante du monde. Quelque chose qui donne un sens, et il n'y a pas beaucoup de sens. Et je pense que dans toutes les choses importantes du monde, nombreuses, la poésie est, parmi toutes ces choses importantes, la chose la plus importante. Ça qui est belle et qui donne un sens, les deux. Mêle les deux. C'est pas rien. La chose.
Madame, monsieur, j'ai glissé Madame, monsieur, j'ai glissé mon âme au sein. yeux, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os des sous, dans un trou, dans une bande chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup, j'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout, j'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays, me donner du pain, m'en faire don.
Adolescent découvre, par exemple, quand il découvre la poésie, c'est que la dimension que l'on pourrait appeler l'infini, la dimension secrète du monde, celle qu'on n'arrive pas à mesurer avec des mesures scientifiques, par exemple, celle qu'on ne peut pas chiffrer, celle qu'on ne peut pas figer dans des formules ou des schémas, eh bien que cette dimension, la poésie, mystérieusement, et même à l'intérieur de ses mesures et de ses règles propres, semble l'introduire, la garder. Dans un poème de Baudelaire comme Le Balcon, eh bien il y a tout, l'infini de l'existence, tout le secret de l'existence qui est présent à l'intérieur d'un cadre très rigoureux. Et je pense que c'est ça peut-être la tâche la plus belle, la plus justifiée de la poésie, c'est qu'elle introduit dans notre vie comme une espèce de clarté qui viendrait du plus haut sur les objets quotidiens, sur les moments les plus simples et les plus quelconques de la vie, les plus communs de la vie, qu'elle introduit cette espèce de lumière.
Ah ben voilà, votre chanson, elle était encadrée par deux hommes, comme se tenant les coudes.
Ouais, c'est vrai.
Christophe Tarkos et Philippe Jacotet, le premier qui dit que la poésie ce n'est pas rien et que parmi les choses les plus importantes du monde, il y en a beaucoup, c'est la plus importante.
Ouais.
Et ensuite Philippe Jacotet qui dit toutes ces belles choses sur la poésie, qui garde la dimension secrète comme ça, qui nous échappe, qui n'est pas mesurable, mais que la poésie rend.
Ouais, c'est vraiment merveilleux. Alors, la façon dont Christophe Tarkos énonce ce qui est présenté comme une vérité absolue à la manière d'un exposé scientifique, ça c'est très intéressant. Hein, on dirait vraiment qu'il appuie.
Il le démontre
comme un mathématicien, je crois d'ailleurs qu'il devait s'intéresser beaucoup aux mathématiques. Mmh. Et voilà, il le démontre, quoi. Et il a même le ton professoral d'une conférence au Collège de France, comme ça, qui, je pense, fait partie de l'œuvre, de son œuvre là, performatif, là, de cet énoncé. Mais ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut croire dans les axiomes de la poésie, comme si c'était vraiment des choses vérifiées par un accélérateur de particules, quoi.
Mais parce qu'elles le sont vérifiées. Je pense que quand Philippe Jacotet dit la dimension non mesurable du monde se retrouve gardée et rendue dans un poème, bah pour qui lit certains poèmes, on peut faire l'expérience vraiment, vérifier que c'est vrai.
Oui, on peut faire l'expérience, mais vous savez aussi que si tout le monde veut bien s'accorder sur le fait que la Terre est ronde aujourd'hui, encore qu'il y ait quelques récalcitrants. Hein,
ouais, et pas des moindres.
Ça, c'est quand même fou, ça, les récalcitrants, là. On va leur mettre du poivre dans leur café.
Ok.
Okay. Et d'autre part, par ailleurs, tout le monde n'est pas prêt à reconnaître que se trouve dans un texte de poésie, dans une poésie, cette chose dont vous parlez. Et tout le monde ne peut pas le reconnaître. Ça n'a pas valeur de vérité scientifique. Moi, je fais partie de...
Donc il faut y croire.
Je pense qu'il y a un acte de foi, il y a un acte de foi, il y a une adhésion, mais je pense qu'en effet, cette adhésion se fait par l'expérience, l'expérience inaugurale de sa sensibilité à ce qui se peut se trouver, capturé par le pouvoir de la poésie. Concernant les aspects les plus indéfinissables de l'existence. Quoi,
et aussi chose. Très concret, très quotidien. Ce que dit Jacotet, c'est que c'est de la lumière, de l'infini,
c'est
quelque
ce que
chose de plus
aussi,
grand.
C'est ce que disait aussi Francis Ponge à propos des objets. Ce qu'il disait, que la poésie n'était pas une chose qui était là, qui flottait entre les choses, et qu'il était dans le pouvoir et le devoir d'un poète de capturer afin de transposer en encre sur du papier. C'est pas une chasse aux fantômes, la poésie, il rappelait que lorsqu'on menace de tomber, on se raccroche à une table, on s'appuie sur un mur. C'est ça notre appui. Il est dans le tangible et dans le contingent, quoi. Et c'est là aussi que se trouve la poésie. Il faut casser peut-être les choses ou les concasser, quoi, mais pas regarder entre une sorte de vapeur qui flotterait, quoi.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses, je disais, comment est-ce qu'on peut digérer une ville verticale et angulaire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses très très concrètes dans ce disque-là, Persona, Bertrand Belin, et il y a aussi la dignité très concrète des hommes et des femmes, la lumière dont parlait Jacotet, elle se place sur plein de silhouettes humaines dont on disait tout à l'heure qu'elles ont beau être ne pas avoir de nom, ne pas être forcément daté ou quoi, mais vous les regardez avec précision, tous ces hommes et ces femmes et qui glissent, qui se redressent, qui sont sur le cul, des familles qui passent dans des parcs. Comme s'il y avait dans ce disque-là plein de chansons qui mettaient des possibles dignités là où le monde n'arrête pas de les enlever.
Oui. Alors que c'est bon, moi je suis posé devant cette étrange équation aussi, parce que les gens ne sont pas nommés, je leur donne pas des profondeurs psychologiques, je raconte pas leur biographie à ces personnes qui traversent mes chansons, mais simplement le fait d'observer une personne ne faisant rien d'autre que traverser un parc ou étant debout près d'un mur,
fumant du tabac ramassé,
voilà, ouais, ou simplement remontant son froc là où ça les gens d'un sac, bon ben je veux dire ça témoigne de l'intérêt que quelqu'un porte sur eux, quoi. Et je pense que c'est ça qui rappelle qu'on cohabite, quoi. Peut-être c'est une chose très simple. De ce point de vue-là, à titre personnel, je suis très sensible à ça. Quand je vois un personnage, quand je vois quelqu'un de ma fenêtre qui passe en bas, que j'ai jamais vu, peut-être deux touristes qui s'en vont au Sacré-Cœur, je les regarde et c'est pas simplement des choses qui bougent, quoi. C'est des vies entières qui passent sous nos yeux, quoi.
Et peut-être aussi quand vous croisez des corps allongés dans la rue ou qui sont sur le cul pour plein de raisons, pour des formes de stupeur d'être sur le cul, d'être dans un monde dans lequel on vit. On sent qu'ils ont tous, que ça traverse beaucoup ce disque-là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que parmi les choses que je ne peux réprimer, qui sont des obsessions, c'est peut-être un mot un peu fort, mais qui viennent clignoter dans mon esprit de manière très très insistante et récurrente, c'est cette question du déclassement social, du bannissement, peut-être parfois jusque ça va presque jusque là de temps en temps, souvent, trop souvent. Et voilà, bon, je vois une population qui couche par terre, ouais, on la voit. J'habite Paris, je prends le métro tous les jours, je traverse Paris tous les jours. Je vois bien qu'il y a des gens qui dorment par terre, et ils sont nombreux, et ils ont mal partout, ils ont des gros pieds, vous voyez, ces choses sont triviales.
Mais elles sont très invisibilisées aussi, elles sont à la fois triviales, très visibles et très invisibilisées. Et donc les décrire parfois par le menu, même en gardant une forme de mystère et d'incompréhension et de noyau qui certainement vous appartient et continuera de vous appartenir, ça les dit.
Oui, ça va pas jusqu'à, je vais pas jusqu'à m'illusionner de donner une parole à des gens qui n'en auraient pas, mais en tout cas, j'ai pas de projet de ce point de vue-là, je suis vraiment traversé par ces soucis, et puis, ça se restitue dans mes chansons, par voie de conséquence, quoi.
Mais si on fait un petit jeu de proportions, puisqu'on a beaucoup parlé de mathématiques et d'architecture, Bertrand Belin, par exemple, dans cet album-là, il y a plus ce genre de chansons que des chansons qui sont très directement des chansons d'amour. Il y en a peut-être deux qui sont très directement des chansons d'amour.
Oui.
J'ai bien compté.
Bah, je crois bien, oui, ouais. Il y a cette chanson « Chose nouvelle ». Et l'autre, ça doit être Sous les lilas.
Ouais, moi, voilà. Je trouve que c'est les deux chansons d'amour très directement.
Oui, ce sont des chansons d'amour, sans aucun doute.
Mais vous voyez, par rapport aux autres disques, il y a une espèce de... Je sais pas. C'est autre chose, quoi. Autre ambiance.
Ouais, autre ambiance, ouais. Parce qu'il y avait plus de chansons d'amour sur le précédent.
J'ai l'impression.
Ah, c'est pas l'effet que ça me fait, moi, non. Il y avait beaucoup de chansons sur mes autres disques qui abordaient déjà ces questions, quoi.
Bien évidemment.
Ces questions de, voilà,
Ça m'a semblé plus frappant, alors peut-être.
Non, c'est
que,
plus frappant. Voilà. Non, mais c'est sûr, c'est plus frappant, mais c'est aussi parce que c'est une chose qui est en augmentation.
Qui est peut-être plus frappante.
Oui, qui est plus frappante, oui. Qui est bien sûr plus frappante. Et puis, moi, j'étais sensible tout particulièrement aussi parce que j'habitais un immeuble sur le palier duquel quelqu'un a vécu un an et demi, hein, qui dormait simplement et qui travaillait. Et qui travaillait le matin. Il fallait pas le réveiller la nuit pour en rentrant à la maison. Il dormait sur le couloir, quoi. Et le matin, il allait bosser, quoi. Alors, j'entendais ronfler, il m'entendait ronfler, on avait une cloison qui nous séparait, j'habite un studio, vous voyez, j'étais dans une situation dans un grand paradoxe moral, quoi, permanent, ça m'a secoué les nerfs dans tous les sens, quoi.
On va parler machine.
Il y avait une rupture énorme quand je suis entré en studio et commencé de travailler 10 heures par jour dans le studio. Et depuis, je travaille en studio. Mais dans le studio, il y avait des révolutions. Tout d'un coup, il y avait des magnétophones à 4 pistes. Avant, on avait seulement des magnétophones mono. Alors, j'ai commencé de penser dans toute une nouvelle direction, de créer de la musique multipiste. Et puis après, j'ai découvert la possibilité de transformer des orchestres traditionnels avec des nouveaux moyens électroniques et des œuvres comme Mixture, ou Microphonie 1, Microphonie 2 sont le fruit de ça. Alors, ça recommence chaque fois avec une nouvelle recherche. Je me sens comme un élève qui va à l'école de nouveau, qui étudie la physique sonore, l'acoustique, la technique électronique. Et je commence une nouvelle étape, si vous voulez. Alors, dans ce sens-là, il y en a beaucoup. Avec le synthétiseur son, qui était le plus grand synthétiseur à l'époque, 1972. L'époque de Sirius a commencé toute une nouvelle conception des timbres, des combinaisons, des sons trouvés, des sons artificiels. Où depuis un an, je me sens dans une nouvelle révolution, je ne sais rien du tout, des nouveaux synthétiseurs mobiles. J'apprends chaque jour de programmer la programmation des différents synthétiseurs, des différentes compagnies. Alors, je travaillais avec des musiciens, chacun est un spécialiste pour son synthétiseur, pour trouver une nouvelle notation, etc. Alors, ce sont des époques de l'évolution spirituelle, intellectuelle, aussi sur le plan technique du métier, qui sont liées à l'évolution de toute la technologie et des possibilités de la musique.
Culture par les temps qui courent. Marie Richeux avec Bertrand Belin.
Petit à petit, l'oiseau fait son bec. Arrive un matin, il a son bec. Et quand vient le soir, qui vient à coup sûr, il veut avoir dit quelque chose avec A-t-il eu le temps seulement? Est-il un volcan dormant? A-t-il eu le temps seulement? Est-il un volcan dormant?
Beck, qui ouvre merveilleusement votre disque, Bertrand Belin, Persona. Et juste avant, c'était Stockhausen lui-même qui parlait des évolutions techniques et des synthétiseurs comme des évolutions spirituelles. Et en fait, moi, je me souviens d'une chanson qui s'appelle Ruine, qui était dans votre album Parc. Et dans un moment, du refrain ou je sais pas quoi, il y avait rouge,
sentimental,
et bam!
Oui,
synthé.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et c'était la première. C'est en tout cas, c'était peut-être pas la première fois qu'il y avait des synthés dans vos musiques, mais en tout cas, moi, c'était la première fois que j'entendais ces accords plaqués de cette manière-là, qui faisaient tellement quand même sortir d'un certain monde de la guitare. Enfin bref, ouais. J'adorais cette espèce de pluie comme ça, rouge, métallique. Et avec ce disque-là, festival.
Oui, c'est vrai. C'est tout à fait exact. C'est une vraie belle archéologie de la présence des synthétiseurs dans
C'est un peu la première
disques.
Fois quand même, non?
Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais, je crois que c'est la première fois. Il y avait, j'ai déjà utilisé quelques petits claviers comme ça, mais des claviers plus classiques, c'est-à-dire des claviers qui reproduisent soit un Fender Rhodes, que sont des variétés de piano électrique qu'on utilise dans le jazz, qui sont pas ces sonorités un peu futuristes telles que se sont présentées à nous dans les années 70 et 80, quoi. Or, c'est vrai que dans Ruine, il y avait ces accords majeur 7 là qui arrivaient comme ça sans crier gare, qui ouais. prenaient toute la stéréo et qui révélaient une forme, une verticalité, quelque chose d'ascensionnel. Vous parliez de pluie. Moi, je voyais plutôt une pluie, mais une pluie venant du sol.
Ah ouais, moi, je la voyais complètement descendre, quoi.
On appelle ça un jet d'eau, non ouais. Une pluie venant du sol, non.
Ah, moi, je la voyais rideau de pluie rouge métallique, ouais. quoi. Ah
C'est formidable. Mais ça. Et moi, si j'ai aimé ce synthé-là, c'est dans un studio au Hameau, chez Sergueï, où on a enregistré cet album Parc en partie, on a fait les claviers là-bas. Il y avait un synthétiseur analogique très ancien, qu'on appelle le Solina. C'est un synthétiseur des années 70 qui a été conçu pour imiter les cordes, pour reproduire cello, violon, mais il y a aussi un ou deux boutons où on peut appuyer pour avoir trompette et corps, pour avoir à peu près ceux qui dans un orchestre s'occupent en général plutôt de voilà des rondes et des grands tapis, voilà, grands tapis sonores. Bien sûr, ce clavier ne remplit pas exactement son rôle parce qu'on se rend bien compte que c'est pas des violons, hein. Mais quand même, il est utilisé à l'endroit où seraient utilisées des cordes dans la chanson, hein, pour créer cet effet symphonique, quoi. Et c'est comme ça que j'ai... Donc, ce synthétiseur a un timbre si particulièrement émouvant, parce que vous évoquez des couleurs, des formes, des choses. Voilà, on peut, avec des synthétiseurs, obtenir des résultats sur le plan émotionnel qui sont gigantesques, quoi.
Voilà. D'où l'une des questions que j'égrenais. Est-ce qu'un synthétiseur peut frissonner? Moi, j'en ai entendu frissonner dans votre disque.
Oui, certainement. Oui. Je pense que le synthétiseur, comme n'importe quel autre instrument, est peut-être plus encore... en tout cas permet des explorations et permet des tas d'expérimentations parce qu'on peut adjoindre aussi le son produit par un synthétiseur à toute une gamme d'autres machines, des pédales d'effet, ce qu'on appelle des pédales d'effet qu'on utilise traditionnellement pour la guitare, mais de plus en plus de personnes jouant du synthétiseur utilisent ces pédales sur les synthétiseurs pour faire encore une fois un étage de variation sonore et d'expérimentation supplémentaire. Donc voilà, c'est vrai que sur Ruine, sur l'album Parc, c'est l'inauguration de ces claviers. Mais tel qu'on parlait Stockhausen il y a un instant, c'est-à-dire avec cette science et ce goût particulier, un peu de laboratoire, ça nécessite quand même de s'impliquer un peu, hein, l'approche de ces instruments-là. Et moi, j'ai le goût du timbre et le goût de leur utilisation pour ce qui est de l'approche purement technique, c'est Thibaut Frisoni qui a réalisé l'album avec moi, qui a ce savoir, cette connaissance et ce goût aussi pour les synthétiseurs. Donc on lui doit aussi, au fil des ans, parce que ça fait longtemps que je joue avec lui, la montée en puissance de ces timbres. C'est pour moi aussi une façon de confronter ma voix à d'autres...
C'est clair, parce que dans ce qu'on vient d'écouter là, avec ce bec... D'un seul coup, il y a votre voix, l'économie des mots dont on parlait tout à l'heure, et cette espèce d'amplitude sonore des synthétiseurs qui amène quand même vraiment vers autre chose, Bertrand Belin.
Oui, c'est un simple synthétiseur que j'ai là, un petit truc bleu là qui fait 40 cm de long,
transportable.
Qui marche sur pile aussi. Et j'ai joué cette chanson un matin dans mon studio à 10h. Elle est exactement dans l'état où on l'a entendue. Je l'ai enregistrée il y a peut-être un an. Avant même d'enregistrer les autres, et puis j'ai décidé de la laisser comme ça, que j'ai compris tout de suite qu'elle avait sa place dans le disque, et peut-être même qu'elle l'ouvrirait, quoi. Ça faisait très longtemps que je le savais. J'ai pas refait la voix, j'ai rien refait du tout. Et la chose étonnante aussi, c'est que comme c'est un synthétiseur, un an après, on le rallume, on va appeler le son en question, on fait les réglages qui s'imposent, et on appuie sur le clavier et on restitue exactement ce son, quoi. Et ça, c'est prodigieux, parce qu'avec la guitare, on s'en rapproche, mais on peut pas dire qu'on... Alors bon, c'est une chose que je découvre aussi.
C'est une chanson qui dit que petit à petit, l'oiseau fait son bec plutôt que son nid, et que quand vient le soir, il voudrait être sûr d'avoir dit quelque chose.
Oui, c'est une petite métaphore animalière de la question de la langue, d'aiguiser sa langue, le bec pour la, il fait son bec, il fait sa langue, il augmente ses capacités d'exprimer ce qu'il a. Elle a besoin d'exprimer, quoi. Qu'est-ce, au juste, je ne sais pas, mais la parole libère, en tout cas, c'est sûr, et il vaut mieux le... Bon, je ne sais pas d'où me vient ce thème, il vient de probablement de ma propre façon à moi d'aiguiser ma langue au fil des ans, de découvrir encore comment m'en servir, quoi. Mais il y a aussi le sujet de... Voilà, essayons de ne pas nous endormir ou mourir, si on veut, avec trop de choses sur le cœur, quoi. Échangeons la parole.
Le soir venu, parce que le soir vient vraiment.
Oui, c'est le grand soir. C'est le soir, c'est ça. Le soir venu, faut avoir dit les choses. Encore que je concède qu'il peut y avoir quelque chose de très beau dans l'absence des mots aussi, mais l'absence des mots, elle ouvre sur deux choses, sur le rêve et sur la violence, quoi. Alors, c'est plus, malheureusement, peut-être, il faudrait plutôt s'inquiéter de la violence qui guette au contour du silence.
C'est trop un risque à prendre, quoi.
C'est un grand risque à prendre,
quand même pas très très loin de vous lever pour danser, Bertrand Belin.
Ah là, ouais, ça swing là, vraiment.
C'est à deux doigts de se lever pour danser.
Ah ouais, vraiment, là, ça nous emporte très vite.
Ouais, on est dans un film où, si on attend un peu, Claude Melki va écraser sa cigarette, se lever, aller piquer une nana à quelqu'un d'autre.
C'est le film de Jean-Daniel Paulet.
Ouais.
Ah ouais.
Pourvu qu'on ait l'ivresse,
ouais.
Non, parce qu'on voulait terminer avec plein de choses. On voulait terminer avec le cinéma, le regard. C'est un film qui n'est fait que de ça. Que des gens qui se regardent, qui se lèvent pour danser. C'est un film qui est réalisé dans les guinguettes autour de Paris et où il y a plein de visages différents, des sortes de balles comme ça, des gens qui se lèvent.
Avec des parquets de danse, quoi.
Ouais. Et non, parce que dans un des clips, vous dansez un peu.
Oui, je danse.
Et en fait, ça fait tellement longtemps que vous dites que vous aimez danser que ça m'a fait plaisir de vous voir danser dans un clip.
Bah oui. Oui, j'adore danser, oui. Je trouve qu'il y a dans la danse une... Bien sûr, en particulier, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire dans une danse faite de peu de choses et relativement disgracieuse, mais qui trahit une forme d'idiotie, comme ça, de... En tout cas, c'est pour moi une libération. La danse, c'est une libération. On parlait de la
Le chant n'est pas rien, la parole n'est pas rien, la poésie n'est pas rien, la danse n'est pas rien.
Mais non, la danse n'est pas rien. La danse, surtout la danse telle que je suis capable de la pratiquer, c'est-à-dire avec peu de vocabulaire et surtout aussi encore... Parce que dans la danse, il y a aussi cette question de la simultanéité, puis de la répétition aussi. Et la répétition, moi, quand je danse, c'est-à-dire que je mets un geste dans une espèce de boucle, comme je suis en train de faire devant vous là. Si on se met à avoir un geste un peu compulsif comme ça, ça rend une présence très étrange. Je veux dire, ça inquiète beaucoup les gens, quoi. Comme si on se mettait à répéter la même chose à quelqu'un dans la rue, quoi, en boucle, quoi. Donc ça crée voilà le dérèglement. On voit que le dérèglement est tout près, tout au bord de tout le temps partout à fleur, quoi. Il suffit de peu pour défaire l'habitus, quoi. Et donc la danse, elle permet ça, elle permet de manifester sa présence très fort, y compris, bien sûr, avec de la grâce, le cas échéant, ou sans, comme c'est mon cas, mais au profit d'un aspect curieux, quoi. Là, l'idiotie, telle que j'imagine chez Tati, par exemple, ouais, moi, c'est une danse qui descendrait de ce genre de silhouette que j'aimerais... Ben, j'en suis bien loin, bien sûr, mais enfin, je me l'interdis pas parce
avec
que
un peu de
ça
travail.
Me fait un bien fou, quoi. Mais je vais prendre des leçons de danse là bientôt. Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, j'en ai le désir.
C'est pas gagné avec la tournée qui vous attend. Ouais. Quoique, on peut avoir des cours de danse dans chaque port.
Oui, bien sûr, c'est une façon de le dire.
Voilà. Ouais. Dérèglement, répétition, tout ça sont aussi des choses qu'on trouve dans les grands carnivores que vous faites paraître à peu près en même temps.
La veille, carrément.
On a parlé de Persona. C'est le disque. On a dit rapidement que vous commencez une grande tournée le 26 février au Havre, Bertrand Belin, qui passera par Paris à l'Olympia le 11 avril avec plein de villes au milieu et après. Tout ça sera sur nos sites internet. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
Au son ce soir, c'était Éric Boisset. À la réalisation, Lise Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission à chaque fois.
C'est loin.
En fait, à chaque fois. Dans un instant, vous retrouvez le journal. Très belle soirée sur France Culture. À demain.
L'allège d'un sac pour fumer à l'aise remonte son froc, son tabac a le goût du fer croisé, du tabac trouvé par terre. Remonte son froc, fume à la nuit, à venir, à où dormir.